Spécial Sport. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau week-end mondial sport, l'indémodable football à la une avec la reprise de la Premier League, Liverpool champion en titre déjà chahuté aujourd'hui, peut-il revivre une saison de rêve, Manchester City et Chelsea, eux, fourbissent leurs armes pour tenter de rivaliser, Arsenal va-t-il faire oublier sa saison noire, état des lieux dans un instant et panorama également de la Liga espagnole qui redémarre aussi. Le Tour de France à Lyon avant de s'attaquer aux Alpes à partir de demain. Un Danois victorieux entre Saône et Rhône, Søren Krag Andersen, membre d'une équipe allemande Sunweb, très en vue en ce moment, grâce également au Suisse Marc Hirschi. Éclairage sur la révélation de cette grande boucle. Les championnats de France d'athlétisme à Albi, gros plan sur le plus célèbre des Burkinabés, le bondissant Hugues Fabrice Zango, vice-champion du monde du triple saut, licencié en France et donc convié de plein droit. Il a gagné le concours, mais ça n'a pas été simple. Et puis, il fait la fierté de tous les fans de boxe en RDC. Junior Makabou, champion du monde WBC des lourds légers, se prépare à la défense de son titre. Pour l'heure, il est à Kinshasa, où il a évoqué sa situation ces derniers mois. Amateurs de Première Ligue de par le monde, réjouissez-vous. Revoici votre championnat préféré quelques semaines seulement après la conclusion d'un exercice 2019-2020 hors norme à cause du Covid-19. Une pandémie aux effets toujours très visibles sur l'ambiance à l'aube de cette nouvelle saison puisque le huis clos total est toujours de mise dans les stades. C'est donc via les écrans que les fans vont continuer de suivre leurs exploits, les exploits de leurs équipes préférées. Mais c'est bien à la radio qu'on retrouve tout de suite notre correspondant en Angleterre pour évoquer ce week-end inaugural. Bonsoir Philippe Auclair.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et à tous.
C'est une reprise légèrement tronquée quand même, car plusieurs clubs diffèrent leur rentrée nationale. Mais il y avait tout de même Liverpool aujourd'hui. Les Reds qui ont entraîné leur titre face à un promu Leeds et un entraîneur dénommé Marcelo Bielsa. Match spectaculaire à souhait, mais compliqué pour les hommes de Jürgen Klopp. 4-3 avec notamment un triplé de Mohamed Salah. C'est un peu la démonstration qu'il va falloir se remettre au travail du côté de Liverpool. Et du coup, on se demande déjà si les Reds ont vraiment les moyens de garder leur bien à la fin de la saison.
Beaucoup plus compliqué de conserver le titre que de le gagner pour la première fois. Ça, c'est certain. C'est toujours le test. Parce que, par exemple, on peut s'imaginer que les rivaux de Liverpool seront certainement un petit peu plus affûtés que la saison précédente. Il serait étonnant que Manchester City, par exemple, concède à nouveau 9 défaites en une saison, ce qui est quand même assez extraordinaire. Manchester United a recruté et va continuer de recruter assez fort. Chelsea a fait un énorme mercato, on en parlera d'ailleurs peut-être un petit peu plus tard, avec Timo Werner, Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz et puis peut-être d'autres qui vont arriver. Arsenal a fait très belle impression aujourd'hui, donc ça reste un petit peu plus compliqué. Mais il faut le dire qu'ils ne seront pas chahutés tous les week-ends, Christophe, comme ils l'ont été par le Leeds United de Marcelo Bielsa, qui est arrivé sans complexe aucun à Anfield, qui a donné une démonstration de courage et d'énergie qu'ils ont fini par payer, un petit peu comme beaucoup d'équipes de Bielsa en toute fin de rencontre, lorsqu'ils ont concédé un pénalty stupide par leur recrue Rodrigo, qui a permis à Mohamed Salah de marquer son triplé et à Liverpool de l'emporter. Mais on a vu une superbe équipe de Leeds United. Et un truc qui a été quand même franchement étonnant, c'est que sur son terrain, c'est la première fois depuis que Jürgen Klopp est entraîneur de Liverpool que Liverpool a eu moins de 50% de possession du ballon. Ce qui est quand même assez étonnant. Et ils ont eu, c'est vrai, quelques problèmes parce que c'est cette équipe extrêmement agressive. Une chose qu'on a remarqué en Angleterre, c'est le fait que le pressing et exercé par Leeds United a fait que Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, qui sont deux des plus importants pourvoyeurs offensifs de Liverpool, et ben cette fois-ci ils ont été beaucoup moins efficaces. On va pas dire qu'il y a des gros problèmes pour Liverpool, non, simplement le fait est que, comme Jürgen Klopp le sait, comme tous les fans de Liverpool devraient le savoir, conserver un titre c'est beaucoup plus compliqué, et que conserver également le rythme qu'ils ont eu l'année dernière, où ils ont quand même marché à l'émotion et à l'adrénaline, et avec parfois un petit peu de chance, mais la chance du champion, ça sera très compliqué de faire 5 saisons de suite. Et c'est vrai que là, c'est passé tout près. Hein, parce que à chaque fois que Liverpool a ouvert la marque, à chaque fois que Liverpool a marqué, eh bien Leeds a pu revenir à hauteur jusqu'à ce dernier but décisif, ce penalty décisif de Mohamed Salah en toute fin de rencontre.
Alors derrière Liverpool, Philippe, vous l'avez évoqué, le reste de l'aristocratie de la Première Ligue, comme on pourrait l'appeler, piaffe un petit peu d'impatience à l'idée de s'emparer du trône. Donc Manchester City d'une part, mais surtout Chelsea qui a mis beaucoup d'argent sur la table pour remonter au sommet, surtout qu'ils en étaient privés, hein, puisqu'il n'y a pas eu de recrutement possible la saison dernière.
C'est exact, oui. Et ils avaient vendu, mis à part Mateo Kovacic, mais qui était déjà en prêt, donc ils pouvaient, en dépit de la sanction de l'UEFA, ils pouvaient, de la FIFA, excusez-moi, ils pouvaient finaliser ce transfert, mais ils avaient un petit peu d'argent en poche. Roman Abramovich a également vendu ses intérêts dans une société minière et a récupéré quelques centaines de millions pendant l'été. Et puis, on sait que les réglementations du fair play financier ont été relaxées, voire suspendues par l'UEFA en raison de la pandémie. Mais du coup, Chelsea s'en donne à cœur joie. Et je regardais les chiffres des dépenses nettes de Chelsea. Je crois que ça va faire, ça va surprendre beaucoup de nos auditeurs. Le fait est que Chelsea a dépensé en brut, pour le moment, pratiquement 250 millions d'euros.
C'est énorme, énorme.
Je me demande si ça n'est pas davantage que, par exemple, tous les clubs de Ligue 1 pris ensemble. C'est voir tous les clubs de Bundesliga. Ce sont des dépenses absolument colossales qui ont été consenties de la part de Chelsea.
Alors, on verra.
Et donc, du coup, ils attendent évidemment d'être de véritables challengers.
On verra effectivement si l'investissement en a valu la chandelle. Philippe, il y a une équipe qui a beaucoup à se faire pardonner quand même pour sa saison ratée, c'est Arsenal, qui a bien démarré hein, aujourd'hui. Victoire 3-0 chez un autre promu, Fulham. Alors, comment est-ce qu'on peut considérer les Gunners? Des outsiders, un petit peu plus?
Certainement des candidats à une meilleure place que l'année dernière et je pense des candidats au top 4. Ça serait dans la lignée de leur fin de saison ou de la fin de saison après la reprise. Hein. Ça serait dans la lignée de leur victoire, de leur campagne en FA Cup où ils ont quand même battu Manchester City alors que personne ne s'y attendait et Chelsea en voit vers la finale. Ça serait également dans la logique de ce que l'on voit, ce qu'on a vu pendant les matchs de préparation lors du Community Shield et ce qu'on a vu à Fulham. Alors oui, on va dire Fulham, c'est le promu en barrage, etc. Mais bon, ce match, il fallait le gagner. Et il a été gagné et bien gagné avec un nouveau but absolument magnifique de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais j'ai l'impression qu'on se répète un petit peu de semaine en semaine quand on dit ça. Mais j'ai une stat assez étonnante à vous donner. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Depuis que Aubameyang est arrivé à Arsenal, aucun joueur sauf Mohamed Salah n'a marqué davantage de buts en Première Ligue. Mohamed Salah 57 buts, Pierre-Emerick Aubameyang 55 buts et Jamie Vardy 50. C'est vous dire que dans quel état de grâce il est. Il va prolonger en fait. Hein. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus et que ça devrait être annoncé la semaine prochaine. Mais avec un Aubameyang dans cette forme-là. Un recrutement qui a été plutôt intelligent. On a vu un très très bon Willian, on a vu un bon Gabriel aujourd'hui. Des joueurs qu'on ne reconnaît plus tellement et qui paraissent transformés sous Mikel Arteta, comme Granit Xhaka ou Mohamed Elneny, dont on avait presque oublié qu'il était encore un joueur d'Arsenal. Un banc qui est très costaud, puisque Nicolas Pepe était sur le banc cet après-midi. Eh bien, on se dit que cette équipe d'Arsenal a les moyens d'être un challenger pour le top 4, absolument.
Vous êtes inarrêtable, Philippe Auclair. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'évoquer le dernier point sur la Chine, hein, les auditeurs, les spectateurs chinois qui n'auront pas, malheureusement, cette année, accès à la Première Ligue en raison d'une rupture de contrat entre la Première Ligue et le détenteur de droits. Mais vous avez dit beaucoup de choses déjà et je vous en remercie d'avance, Philippe Auclair, en direct de Londres et certainement la semaine prochaine pour parler de la suite de cette Première Ligue. Autre championnat à revenir, sur lequel on revient, maintenant c'est la Liga, avec là encore un démarrage en sous-régime. Toutes les grosses écuries qui ont évolué sur la scène européenne le mois dernier ne seront pas sur les terrains ce week-end. Un championnat qui fête ses 90 ans d'existence, pas de bougies prévues quand même, pas de public non plus dans les tribunes, mais déjà quelques bisbilles dans la famille du foot espagnol et des clubs toujours en quête de consolidation de leur effectif. Pierre Chaperon nous plante le décor général de la saison.
Qu'est-ce que serait le championnat d'Espagne sans ces petites chamailleries, ces petits conflits, ces tensions en haut lieu? Dernière en date, le calendrier. La Liga aurait dû débuter hier. Refus de la fédération, annoncé seulement le mercredi. L'entité qui ne veut pas de match le vendredi et le lundi. Un combat d'ego entre d'un côté Luis Rubiales, qui veut asseoir son pouvoir comme président de la fédération, et Javier Tebas, président du championnat, qui veut développer son business. Le tout arbitré par Irene Lozano, interrogée cette semaine par la Cadena Ser, la présidente du Conseil supérieur du sport espagnol, équivalent du ministère des Sports, trouve la situation délicate.
J'ai l'impression qu'on consomme beaucoup trop de force dans des batailles absurdes. Si on pouvait dépenser plus d'énergie pour travailler plus pour le sport espagnol, je crois que nous avons prouvé, dès que nous en avons eu l'occasion que nous pouvions arriver à des accords. Nous sommes arrivés à terminer la saison 2019-2020 en pleine pandémie mondiale. Nous voudrions que cet esprit dure plus longtemps. Moi, je crois à la paix entre la Liga et la Fédération.
La paz, Liga, Fédération.
Bataille ou pas, la Liga continue sa quête de nouvelles ressources et se développe au-delà de ses frontières. Multiplication d'accords télé en Asie et en Europe. De l'argent pour continuer à bien figurer face à la concurrence du championnat d'Angleterre et le service après-vente de l'efficace Javier Tebas, toujours prompte à défendre et vanter sa Liga.
Moi, je crois que ça va être une saison sur le plan sportif quelque peu surprenante, parce qu'il y a l'effet Covid qui a touché tous les clubs, et ça les empêche de faire ce qu'ils font habituellement, comme des transferts. Et puis, d'autres clubs dépendent de la billetterie et n'ont peut-être pas pu se renforcer. Et au final, je suis sûr que ça sera une saison très compétitive.
Javier Tebas et la Liga soulagés de voir Lionel Messi rester une saison de plus à Barcelone. Le numéro 10 argentin est un argument solide pour exporter la Liga à l'étranger. Le Barça justement qui signe le transfert le plus cher de ce marché espagnol. Le milieu de terrain bosniaque Miralem Pjanic, venu de la Juventus pour 60 millions d'euros. Les Catalans en pleine reconstruction. Nouvel entraîneur, Ronald Koeman. Départ du Croate Ivan Rakitic avant ceux espérés de Luis Suarez et Arturo Vidal. Rumeur d'arrivée de Memphis Depay et Jorginho Wijnaldum. Des profils qui ne plaisent pas forcément à l'ancien attaquant, le Camerounais Samuel Eto'o.
En premier lieu, je suis heureux parce que celui que je considère comme mon fils, Lionel Messi, est resté au Barça. Après, je crois que cette équipe a besoin de recruter d'autres joueurs qui ont le style de Barcelone. Je ne dis pas que ceux qui sont ici ne l'ont pas, mais il faut trouver des joueurs qui connaissent le tiki-taka et les garder. Il ne faut pas acheter des joueurs box-to-box.
Un marché des transferts très calme, moins de 10 transferts à plus de 10 millions d'euros. Le Real, champion en titre, a par exemple rappelé de près le jeune Norvégien Martin Odegaard, notamment. À suivre également l'Atlético de Madrid, sans grand changement et toujours avec Diego Pablo Simeone. Séville, un mois après son sacre en Ligue Europa, et Villarreal, désormais entraîné par Unai Emery, et qui a récupéré le Français Francisco Klein et l'Espagnol Dani Parejo de Valence. Une saison qui ne devrait pas commencer avec du public dans les stades. Covid oblige, un retour est envisagé seulement lorsqu'un vaccin sera disponible. En Espagne, on parle du mois de décembre. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Un petit mot pour terminer sur le football avec les résultats du jour dans la troisième journée de Ligue 1. C'est Saint-Etienne qui a pris provisoirement la tête du classement en battant Strasbourg 2-0. Ouverture du score sur pénalty du Gabonais Denis Bouanga. De son côté, Montpellier a dominé Nice 3-1. La suite demain avec surtout la grande affiche. Déjà, le classique PSG-OM avec le retour de Neymar dans le groupe parisien après son test positif au Covid-19. Le duel sera à suivre, notez-le, en intégralité sur RFI à partir de 19h, temps universel. Celle-là.
Modèle Sport sur RFI.
Allez, c'est le moment de s'incruster à nouveau dans la caravane du Tour de France, tout en respectant bien sûr la bulle sanitaire et la distanciation sociale. Nous, à Paris, et nos envoyés spéciaux à Lyon, ville d'arrivée de la 14e étape, partie 194 km plus tôt de Clermont-Ferrand. Éric Chorin, confortablement installé dans la zone technique avec Richard Rifono pour assurer la liaison. Bonsoir Éric.
Bonsoir Christophe.
Finale haletant pour cette 14e étape sur les bords du Rhône, Éric.
Oui, un final comme on les aime, Christophe, avec un terrain propice aux attaques, les côtes de la Duchère et de la Croix-Rousse et une descente technique vers les bords du Rhône. Mais vous connaissez mieux la ville que moi, Christophe, vous le Lyonnais, et des attaquants pour exploiter ce terrain. Et à ce petit jeu-là, une équipe plus forte que les autres, la Sunweb, qui avait déjà lancé le Suisse Marc Hirschi sur les bons rails pour sa victoire à Saran il y a deux jours. Ils sont trois à avoir attaqué dans les sept derniers kilomètres, le Belge Thijs Benoot dans la Duchère et puis Marc Hirschi dans la Croix-Rousse, tous deux repris par les coéquipiers de Peter Sagan. Mais la troisième attaque, celle de Søren Krag Andersen, juste avant le sommet de la Croix-Rousse, a été la bonne. 2 kilomètres plus loin, le Danois franchissait la ligne en vainqueur à hauteur du Cours Lafayette, 15 secondes devant le peloton. Un travail salué par le capitaine de route de cette équipe, l'Irlandais Nicolas Roche.
Quand on voit les jeunes que je dois gérer, il n'y a rien à dire. Encore aujourd'hui, un final exceptionnel. J'ai fait de mon mieux pour les mettre en position pour l'entrée dans le quatrième catégorie. On a vu Tige tout de suite mettre la pression, Soren finir le boulot, c'est génial. On a un collectif exceptionnel, ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis professionnel, j'ai rarement vu un collectif aussi fort. Ça fait 2 mois quasiment qu'on vit ensemble avec la bulle Corona. Et on a créé des liens qui sont vraiment forts Et non seulement il y a le côté amitié, mais il y a aussi le côté sacrifice l'un pour l'autre. Et je pense que des fois, ça ne paye pas et ça passe inaperçu. Et quand ça paye, ça fait vraiment des joies exceptionnelles.
Alors, un qui était un peu moins heureux à l'arrivée, Eric, même s'il n'avait pas perdu le sourire, c'est Stefan Kung.
Stefan Kung, repris à 80 km de l'arrivée, après 105 km d'échappée, accompagné au début, seul ensuite. Le Suisse de l'équipe Groupama FDJ, nouvelle fois victime du rythme imprimé par les coéquipiers de Peter Sagan en tête du peloton. Ce fut déjà le cas pour lui entre Oléron et Ré. On peut dire que Stefan Kung s'est senti un peu seul face à la meute.
Moi, je voyais plutôt un scénario d'une grande échappée aujourd'hui. Puis les gars, ils disaient « Oh non, ça va être Bora qui contrôle ». Et j'ai dit, mais en fait, il n'y a qu'une équipe qui veut contrôler. Tu as encore 20 autres équipes et s'il y a tout le monde qui tente, ils ne peuvent pas contrôler. Mais il y avait très peu de monde qui tentait. Et franchement, déjà, je ne comprends pas trop pourquoi Bora il roule parce qu'ils ont déjà fait deux fois avec Sagan. Les deux fois, ils terminent 13e, aujourd'hui 4e pour l'effort qu'ils mettent. Mais après, c'est leur tactique. Hein. Chacun peut faire sa tactique. Mais c'est clair, dans mon scénario idéal, il aurait une échappée plus grande.
Pour Primoz Roglic, en revanche, le scénario idéal, c'est de ramener à Paris le maillot jaune qu'il porte depuis 5 jours.
Oui, il l'a revêtu le soir du deuxième doublé slovène sur ce tour. Après celui d'Orsière-Merlet, c'était à Larens. Roglic s'emparait du jaune alors que son compatriote Tadej Pogacar remportait l'étape. Hier encore, le duo faisait exploser le groupe des favoris dans la montée vers Puy-Marie, prenant du temps à tout le monde. Roglic a même réussi à repousser Egan Bernal, le vainqueur sortant, à une minute. Mais quel est donc le secret des Slovènes sur ce tour 2020? La question pourrait susciter la polémique. Primoz Roglic préfère en rire.
Notre secret, je ne sais pas, on court juste super bien. C'est vraiment incroyable. On écrit l'histoire du cyclisme en ce moment et j'espère qu'on va continuer comme ça et se souvenir de nos victoires dans le futur. En attendant, il reste de la montagne et on va bien s'amuser.
Une étape amusante demain avec deux cols de première catégorie, la selle de Fromentel et la Biche dans le final et l'arrivée hors catégorie au Grand Colombier. Il n'y a que Roglic pour le penser. Pour Kenny Ellison, coéquipier de Richie Porte, 9e à 2 minutes, ça va batailler dans la 15e étape demain.
C'est clair, on a vu il y a deux semaines autour de l'Ain, il y a eu une répétition générale sur cette étape-là et il y en avait vraiment partout. Donc demain, c'est sûr, il y aura la guerre. Et moi, je serai un coureur du classement général, ouais, j'essaierai de faire des différences déjà. Et les deux Slovènes, là, ils ont montré qu'ils étaient en forme. Tout le top 10, à vrai dire, c'est très resserré. On sait déjà que souvent, la veille du jour de repos, vraiment, c'est la guerre parce qu'on sait qu'on a une journée pour se reposer derrière. Et là, avec le classement qui n'est pas fait, je pense demain, ça va vraiment être la baston. Ouais, j'espère.
Kenny Ellison, au micro de Thomas de Saint-Léger. Merci Eric Chourin. Et à demain sur la route du Tour. Restons encore un peu sur cette équipe Sunweb et son beau collectif. Mais un coureur s'en détache quand même. C'est le Suisse Marc Hirschi, 22 ans. Impressionnant depuis le départ. Deuxième de l'étape remportée à Nice par Julien Alaphilippe. Vainqueur en costaud à Saran jeudi. Thomas de Saint-Léger, toujours lui, a voulu en savoir plus sur ce garçon. Il est allé poser quelques questions à son voisin d'interview d'après étape chaque jour. Le journaliste de la RTS, Jérôme Janin, pour qui le pays tient enfin le grand coureur qu'elle attendait depuis la retraite de Fabian Cancellara en 2016. Jérôme Jeannin.
Ça fait un moment en Suisse qu'on cherche un coureur de haut niveau. Et puis Marc Hirschi, je crois que c'est vraiment lui. Vous l'avez dit, il n'est pas encore très connu du grand public. Il se révèle sur le Tour de France. Par contre, les connaisseurs le voient venir depuis un sacré moment. Il a tout gagné chez les juniors, champion d'Europe et champion du monde chez les moins de 23 ans en 2018 à Innsbruck, hein, sur un parcours très difficile. On est un peu étonné qu'il fasse déjà le Tour de France parce qu'il vient à peine de fêter ses 22 ans. Après, il faudra voir ce qu'il vaut sur les grands tours. Est-ce qu'il est capable un jour de disputer un classement général? On ne le sait pas. Lui-même, je pense qu'il ne le sait pas. Il est capable de, comme il le fait cette année, de cocher des étapes et puis de jouer des victoires d'étapes. Peut-être de gagner un tour d'une semaine, des classiques, ça c'est sûr. Sur un grand tour, ça reste à voir.
Alors, il est entraîné par Fabian Cancellara. Enfin, c'est son mentor, hein, c'est ça?
Alors, il n'est pas vraiment entraîné. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont issus de la même commune. En fait, Cancellara habite à 300 mètres de la maison de Marc Hirschi. Marc Hirschi, quand Cancellara, à l'époque, à Pékin, était devenu champion olympique du contre-la-montre, était allé demander un autographe à Cancellara. Ensuite, il explique qu'il a souvent roulé avec lui. Il y a une certaine complicité entre les deux. C'est pas son entraîneur, c'est son agent, c'est lui qui le conseille. Et comme vous le dites, c'est un peu le mentor de ce jeune phénomène.
Un phénomène de précocité, vous nous le dites, Marc Hirschi, un coureur aussi qui semble déjà avoir un caractère assez affirmé. Hein.
Oui, c'est un garçon. Je discutais avec son ancien entraîneur Daniel Giziger, qui l'a coaché avec Swiss Cycling chez les juniors. Il me disait c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui déjà, quand il était très jeune, à 14-15 ans, rentrait chez lui avec son vélo pour étudier la position du vélo, essayer de gagner la moindre seconde sur chaque détail. C'est vraiment un perfectionniste. Et puis son coéquipier Nicolas Roche, qui est un peu le capitaine de route de cette équipe Sunweb, dit que c'est un tueur, quoi. C'est une machine de guerre, c'est quelqu'un qui, quand il part dans une échappée, va vraiment pour la victoire.
Jérôme Janin, journaliste à la RTS, la radio-télévision suisse, suite du Tour de France. Donc demain, le peloton repartira de Lyon à 10h25, temps universel. La séquence athlétisme à présent en direction la très jolie ville d'Albi dans le sud-ouest où s'est achevée la première journée des championnats de France avec Christophe Jousset aux premières loges. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Championnat bien plus tardif que d'habitude et on sait pourquoi dans cette saison bouleversée par la pandémie, les athlètes qui ont répondu présents ont bien profité du moment.
Oui, quelques milliers de spectateurs, la chaleur, la compétition, une vraie bouffée d'oxygène, même si ces championnats ne sont qualificatifs pour rien cette saison. Renaud Lavillenie a apprécié, tout en regrettant, vous allez l'entendre, qu'il n'y ait pas eu un peu plus de compétition cet été en France. Pour lui, c'était possible.
De semaine après semaine, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on peut s'entraîner, on ne sait pas si on peut faire des compètes. Et ce qui fait que nous, en tant que sportifs, on est énormément pénalisés et toute l'industrie du sport est en train de ramasser à cause de ça. Voilà, ça fait partie du jeu, mais voilà, des fois, on a besoin aussi d'un peu de souplesse quand on voit ce qui peut se faire un peu partout dans le monde, quoi.
Voilà, le message est passé. Mais comme il a aimé se retrouver dans cette ambiance, eh bien, Renaud Lavillenie a été performant, sacré champion de France pour la 10e fois de sa carrière en plein air. Il a aussi 8 titres en salle. Il a été à la lutte avec son petit frère Valentin, mais Renaud l'emporte en effaçant 5,80 m, son meilleur saut cette année, assez loin quand même des hauteurs que tutoient ces derniers temps les Duplantis et Kendricks, qui sont ses rivaux à l'international. De cette première journée, on ressortira aussi un nom, Sirena Samba Mayela, elle a 19 ans, elle est championne de France du 100 mètres et en 12 secondes de 73, nouveau record personnel, elle est la troisième performeuse mondiale de l'année. Samba Mayela, un nom à retenir.
On en vient maintenant, Christophe, au cas Hugues Fabrice Zango, le triple sauteur burkinabé médaillé aux derniers mondiaux. Zango, très partagé ce soir, il a gagné le concours, certes, mais dans la douleur.
Oui, on l'a vu le visage fermé, on l'a vu grimacer après ses deux premiers essais à moins de 17 mètres. Au troisième, il a retrouvé son niveau et atterri à 17 mètres 33, ce qui lui a garanti la victoire. Mais ensuite, il a rechuté. Quatrième essai non mesuré, Zango a finalement renoncé à ses deux derniers essais sur les conseils de son entraîneur, Teddy Tamgo, qui a bien vu qu'il n'y était pas, ce que l'intéressé nous a confirmé.
J'étais pas vraiment présent sur le stade, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à me concentrer. Ça arrive, justement, j'ai réussi à me refocus pour faire un seul essai quand même, faire ce que je sais faire et ça donnait 17-33. C'est très très positif en fait au niveau mental pour moi, de pouvoir en fait au moins sortir un saut même quand tout va mal. C'était vraiment un jour sans. Avec la psy du groupe, en fait, on va essayer de trouver des explications et des réponses pour que cela n'arrive pas le jour où il faut être fort.
Oui, il préfère en rire. Bon, c'était le dernier concours de l'année pour Hugues Fabrice Zango, une année très compliquée. Il se voyait briller aux mondiaux en salle à Nankin. Il rêvait d'une médaille olympique à Tokyo, en or de préférence. Eh bien, tout a été reporté à cause de la pandémie. Ça n'a pas été simple parce que les athlètes vivent des compétitions, y compris financièrement, bien sûr. Mais le Burkinabé a fait le choix de voir le côté positif. C'est ce qu'il nous a expliqué hier quand nous l'avons vu au calme, ici, dans les tribunes du stade d'Albi.
Au départ, en fait, c'est vrai que j'avais ce sentiment de me dire « Ah non, merde, encore une année, il faut attendre une année. » Et j'étais pas prêt pour ça. J'étais vraiment pas content, voilà, que des choses soient reportées. Mais finalement, je me suis rendu compte que cette année, elle a été bénéfique pour moi. En tout cas, au niveau sportif déjà, j'ai pu améliorer certaines choses dans ma technique qui vont me rendre beaucoup plus dangereux et beaucoup plus présent à Tokyo l'année prochaine. Ça, j'en suis complètement convaincu maintenant. Et franchement, j'ai eu le temps de développer certaines de mes qualités que je n'aurais pas eu le temps de développer parce qu'on serait dans l'urgence de Tokyo 2020.
En Hongrie, le mois dernier, vous avez battu Christian Taylor, le double champion olympique, pour la toute première fois de votre carrière. Même si ça ne s'est pas joué à un niveau très élevé, 17 mètres 40 et quelques centimètres. Est-ce que c'est important pour vous ?
Important pour moi, forcément, parce que gagner, c'est toujours important. ça touche psychologiquement le Christian Taylor en question. Cette année, c'est une année très relaxe et je ne me donne pas, voilà. Et corps et âme, c'est devenu plus ou moins aisé pour moi de sauter un 17m40 en fait dans ce sens-là. Donc la façon dont je l'ai fait, c'est vrai que ça forcément ça parle à Christian Taylor. Et donc dans ce sens, je sais qu'il s'est posé des questions. Et ça c'est important dans un plan, pas seulement au niveau physique ou performance, mais seulement au niveau psychologique et tout ça, ça joue forcément.
Est-ce que vous vous projetez déjà sur Tokyo ?
Alors à chacun de mes entraînements, je suis en finale des Jeux. Que ce soit des entraînements de course, que ce soit des entraînements de saut, ou quel que soit l'entraînement que je dois faire, je suis à Tokyo en fait. Là. Je donne le meilleur de moi dans tout ce que je fais. Ouais.
Voilà, rendez-vous en 2021 maintenant avec un Zango qui a déjà Tokyo dans la tête. Et rendez-vous demain à Albi pour la deuxième et dernière journée des championnats de France, avec au programme notamment Noélie Yarigo sur 800 mètres, Kevin Mayer sur 110 mètres haies, ou encore les lanceuses Mélina Robert-Michon pour le disque et Alexandra Tavernier pour le marteau.
Merci beaucoup Christophe Jousset, petite rectification par rapport à ce que je vous disais dans les titres. Hugues-Fabrice Zango n'est pas vice-champion du monde, il est médaillé de bronze aux Mondiaux, mais c'est déjà pas si mal.
Modèle Sport sur RFI.
Allez, on termine l'émission avec l'actualité d'un pionnier dans son pays, premier champion du monde de boxe d'une grande fédération internationale, la WBC, en lourd léger. Junior Makabu va bientôt reprendre le chemin du ring de Kinshasa, 7 mois après avoir obtenu sa couronne, pour défendre son titre. Il a fait son retour dans la capitale congolaise fin août après un long séjour en Afrique du Sud, notamment pour cause de Covid-19 qui n'a évidemment pas aidé au montage d'un nouveau combat. Mais Junior Makabu reste confiant sur l'élaboration de ce nouveau rendez-vous chez lui. Ou David Kalfa de la rédaction multimédia l'a joint pour évoquer d'abord son sentiment sur cette attente.
C'était un peu difficile pour moi. Si ce n'était pas l'histoire du corona, je devrais avoir 2 à 1 défense volontaire, mais ça va se passer avant que ce soit la fin de l'année. Mais moi, je suis content que le corona n'a pas atteint beaucoup de gens chez moi au pays. Pour le moment, je suis très bien physiquement, je suis fort moralement, je suis encore très fort au fur et à mesure que je suis champion du monde. Ça s'est jamais passé chez nous au pays. J'ai écrit une histoire qui ne peut jamais être effacée, tu vois. Ça dit ma morale va bien.
En Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de cas de Covid-19. Est-ce que vous avez pu vous entraîner à peu près normalement durant les dernières semaines, malgré la situation sanitaire?
Avant que je sorte le pays, nous sommes le président de la République sud-africaine, Ramaphosa Cyril, il a ouvert le gym et je me suis entraîné 2 ou 3 fois avant de quitter. Mais je suis en bonne condition, mais je suis au pays pour travailler sur quelques documents ensemble avec le président de la fédération pour la préparation de mon combat.
Vous avez effectivement décroché la ceinture de champion du monde WBC. Qu'est-ce que ce titre il a changé dans votre vie?
Depuis que je suis champion du monde, je sais que j'ai amené mon pays à être grand et ce n'est pas une chose facile. J'avais une vision que beaucoup de gens n'ont pas compris au pays chez moi. J'ai lutté pendant 2 années pour y atteindre. C'est-à-dire les gens, ils ont fait la boxe chez moi au pays. Mais nombreux ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Mais quand je faisais la boxe, je pensais un jour que mon pays peut être vu dans l'autre manière, pas dans des massacres, pas dans des guerres, pas dans des histoires de diamants, cobalt qui se passent au pays, pas dans des politiques. Mais j'ai voulu vendre l'image de mon pays dans une autre façon. Au jour d'aujourd'hui, j'ai amené mon pays d'être numéro 1 dans le monde parmi les boxeurs. C'est-à-dire, ça me fait du bien, ça me fait la joie. Et ça me pousse encore, ça me fortifie de pouvoir encore faire beaucoup mieux, plus que ce que je fais aujourd'hui.
Junior Makabu, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site RFI.fr. En quelques instants, je vous signale que la japonaise Naomi Osaka est bien partie dans la finale féminine de l'US Open de tennis face à la biélorusse Victoria Azarenka, puisqu'elle a remporté le deuxième set 6-3 après avoir perdu le premier 6-1, et que Osaka mène 4 jeux à 2 dans le troisième set. Mondial Sport.